Bienvenue à notre discussion sur l'urbanisme au Québec. C'est un sujet chaud, là, surtout avec la crise du logement actuel.
Absolument.
Aujourd'hui, on veut jaser à partir de textes qui s'appellent « Regards sur l'urbanisme ». On va essayer de comprendre un peu mieux la crise, ses causes puis les solutions qu'on propose. La fameuse densification aussi.
C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer les enjeux clés qu'on retrouve dans ces écrits.
Puis pour commencer, une chose qui ressort fort des lectures, c'est à qui la faute, finalement?
Ben oui, c'est frappant. Les documents montrent que tout le monde pointe pas mal tout le monde du doigt. Le fédéral, le provincial, les villes, les promoteurs, même les proprios puis les locataires. Chacun a l'impression que c'est l'autre le problème.
C'est beaucoup plus compliqué que juste les délais pour les permis, ce qu'on entend souvent dans les médias, là.
Exactement. Ça, c'est comme la pointe de l'iceberg. Les médias simplifient souvent, mais il y a des grosses questions économiques en dessous.
Justement, parlant de choses qu'on voit moins, il y a un truc assez surprenant soulevé dans les sources, non? Sur le stationnement.
Ah oui. Une étude citée suggère que les exigences minimales de stationnement, ça pourrait être un frein majeur. Vraiment majeur.
Plus que d'autres facteurs?
Potentiellement. L'étude dit que si on assouplissait ça, on pourrait construire, tenez-vous bien, entre 40 et 70 plus de logements dans certains secteurs. C'est énorme.
Wow! OK. Mais au-delà de se pitcher la balle puis du stationnement, les causes économiques, c'est quoi au juste?
Ben, les sources, surtout celles des associations de construction comme la PCHQ, la CQ, insistent beaucoup là-dessus. La hausse des taux d'intérêt, là, ça frappe direct les mises en chantier. C'est mathématique.
Puis il n'y a pas juste ça, j'imagine.
Non, non. Faut ajouter la pénurie de main-d'œuvre. C'est critique. La CCQ estime qu'il va manquer genre 17 000 travailleurs par année d'ici 2028.
17 000 par an?
Oui. Puis les coûts des matériaux. Le bois, l'acier, ça a doublé, triplé entre 2020 et 2022, tu sais. C'est fou.
Donc, une vraie tempête parfaite, finalement. Puis les règlements municipaux dans tout ça, on en parle beaucoup?
Oui, puis c'est vrai qu'il y a des enjeux réels, mais les textes nuancent un peu. C'est parfois caricaturé par les lobbies. C'est analyser un gros projet de 2000 logements, ben oui, ça prend du temps, c'est normal. Faut pas juste blâmer ça.
D'accord. Et il y a aussi les redevances au développement, j'ai vu ça passer.
Oui, le prof Sancton en parle. Son point, c'est que ça peut être inéquitable. Ça taxe la construction neuve, ça taxe la densification, ça fait monter les prix.
Attends, ça taxe la densification. C'est pas ça qu'on veut encourager.
Ben oui, c'est un peu paradoxal. Puis ça fait que le coût des nouvelles infrastructures, genre les égouts, les rues, ben il se retrouve payé par l'hypothèque de l'acheteur. Souvent à un taux plus élevé que si la ville empruntait elle-même.
Intéressant. Bon, face à tout ça, est-ce que les sources proposent des pistes de solutions concrètes?
Oui, quand même. On voit les plans des gouvernements, le fédéral avec sa stratégie nationale sur le logement, puis le provincial avec sa stratégie québécoise en habitation. Les deux visent à augmenter l'offre, l'abordabilité, le logement social. On parle même d'encourager le préfabriqué.
Et au niveau des villes, ça bouge aussi?
Ça dépend des villes. Montréal avait son règlement 20-20-20, mais là, il est suspendu. Apparemment, ça ne donnait pas les résultats voulus sur l'abordabilité. Souvent, les promoteurs aimaient mieux payer la pénalité que de construire du social ou abordable.
Ah ouais, OK.
Ailleurs, Gatineau donne de l'aide financière directe. Québec a permis aux villes de taxer les logements vacants. Ça varie beaucoup.
Le préfabriqué, le modulaire, tu l'as mentionné, ça semble gagnant en popularité, non? Surtout avec le manque de bras.
Oui, puis il y a maintenant des normes, là, des codes CSA pour encadrer ça. C'est vu comme un moyen d'accélérer la construction. Le risque, par contre, c'est un peu la monotonie, tu sais. Faut pas refaire les erreurs du passé avec des blocs tous pareils.
Genre l'Allemagne de l'Est, comme mentionné.
Un peu cette idée-là, oui. Puis les mini-maisons, c'est populaire dans le discours. Mais les sources montrent que c'est pas si simple.
Des coûts cachés, le financement est pas toujours évident, c'est pas encore couvert par le code du bâtiment. Puis pour les villes, ça demande les mêmes services, aqueducs, égouts, mais ça rapporte moins de taxes qu'une maison standard.
Oh, que joie.
Tout ça nous ramène souvent à la densification. Pourquoi on en parle autant? C'est quoi l'argument principal?
Il y en a deux gros qui ressortent. Premièrement, l'argent. La santé financière des villes. Des analyses montrent que les quartiers denses, souvent, ils subventionnent les banlieues moins denses. Ça coûte moins cher en services par personne.
Donc, plus de densité, c'est plus payant pour la ville.
En général, oui. Deuxièmement, l'environnement. Protéger les terres agricoles, on a juste 2 % de terres cultivables au Québec. Faut pas les gaspiller avec de l'étalement.
Logique. Mais on sait que ça résiste. Le fameux NIMBY. Pendant ma cour, les projets bloquent.
Oui. La résistance est forte. Les exemples comme Place Versailles ou Le Phare à Québec le montrent. Puis il y a même une résistance politique parfois. J'ai lu une citation d'un ministre qui disait que la densité, c'était juste une mode.
Ah oui, quand même.
Mais les sources font une distinction importante. il y a des bonnes et des mauvaises façons de densifier.
OK. C'est quoi une bonne densité, alors?
Bien, on parle du vancouverisme. Des tours hautes, fines, avec des commerces en bas qui animent la rue. Ou la densité douce, plus discrète. Ajouter un logement dans une maison existante, des petits plexes bien intégrés. Convertir des vieux centres d'achat aussi. Puis revoir les normes de stationnement, comme on disait.
Et à l'inverse, la mauvaise densité?
Surtout, taxer la densité elle-même, ça, c'est contre-productif. Ou faire ce qu'on appelle l'étalement dense.
L'étalement dense, c'est quoi ça?
C'est construire des blocs denses, mais super loin, en périphérie, sans service, sans transport en commun efficace. Ça ne règle pas le problème de la dépendance à l'auto, puis ça crée des quartiers dortoirs. Puis, bien sûr, négliger la qualité, l'échelle humaine, l'esthétique.
Ça m'amène à un point soulevé dans les textes, le paradoxe canadien. On serait champion de l'OCDE pour le nombre de pièces par personne.
Oui, puis la taille moyenne des logements augmente tout le temps, alors que les ménages sont de plus en plus petits. On parle d'obésité spatiale. C'est assez parlant comme image.
Vraiment. Et socialement, ça a des impacts aussi, cette densification des centres.
Oui. Un chercheur, Murtaza Haider, note que ça rajeunit les centres-villes, mais que c'est pas toujours bien adapté pour les familles avec des enfants. Ça pose la question de l'inclusivité de ces quartiers.
Donc, l'aspect humain, le design, c'est pas juste un détail.
Non, pas en tout. Une citation de Jeff Sigler dans les sources dit que la beauté, l'échelle humaine, c'est fondamental. Notre environnement bâti, ça influence directement notre bien-être. C'est pas juste des chiffres et des règlements.
Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans ces lectures, la crise du logement, les défis de l'urbanisme au Québec, c'est vraiment multifactoriel.
Extrêmement. Pas de coupable unique, pas de solution miracle. La densification, on en parle beaucoup, c'est souvent vu comme nécessaire. Mais c'est pas simple. Il y a des bonnes, des mauvaises manières de faire, puis beaucoup de résistance.
Pour conclure, une pensée qui m'est venue en lisant tout ça, en face à cette énorme complexité puis tous ces intérêts différents, comment on peut faire pour planifier nos villes, nos quartiers de façon plus constructive? Comment dépasser le simple pour ou contre?
C'est la grande question.
Puis même si l'intelligence artificielle peut peut-être nous aider à optimiser des trucs techniques, comment s'assure que l'urbanisme, ça reste fondamentalement une question humaine, une affaire de culture, d'expérience vécue? Ça laisse matière à réflexion.